RFI 19h30 à Paris et à Rabat, il est 18h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et cette première édition d'Afrique Soir, c'est avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Emmanuel Macron accueilli en grande pompe par le roi Mohamed VI à son arrivée au Maroc après des années de brouille. L'heure est à la réconciliation. D'importants contrats doivent être signés lors de cette visite d'État. Trois jours de deuil national décrété au Tchad après l'attaque d'une base militaire par les djihadistes de Boko Haram hier soir. Une quarantaine de militaires tchadiens ont été tués et l'armée annonce avoir lancé une contre-offensive. Au Niger, plus de 4 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Aujourd'hui, la rentrée scolaire avait été repoussée en raison des graves inondations. Dans l'actualité encore, la crise au Mozambique, les tensions post-électorales se multiplient. Le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition, Podemos, revendiquent chacun la victoire aux dernières élections. Le football qui recevra ce soir le Ballon d'Or. Avant la cérémonie, c'est déjà la polémique. Le Real Madrid boycotte la cérémonie. Certains que son champion Vinicius Junior ne sera pas lauréat. Nous appellerons au Théâtre du Châtelet Sofiane Amazian. Enfin musique, Franck Baudin nous parlera de la révélation de la scène afropop. Le jeune Congolais Diesel Gucci qui sera en concert pour la première fois à Paris le 1er novembre. Tapis rouge pour Emmanuel Macron, arrivé au Maroc pour une visite d'État de 3 jours. C'est la visite de la réconciliation après la reconnaissance officielle par la France du plan marocain pour le Sahara occidental. François Humfer Kataji, un accueil fastueux pour le président français qui est actuellement en train de s'entretenir avec son hôte, le roi Mohamed VI.
Oui, le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont arrivés sur les coups de 17h, accueillis sur le tarmac de l'aéroport de Rabat par le roi Mohamed VI, mais aussi le prince héritier Moulay Al-Hassan et les autres membres de la famille royale. Les deux chefs d'État ont ensuite pris la route pour le palais royal, saluant de la main des milliers de Marocains amassés le long de cette route pour saluer l'arrivée du président français et le passage du roi. Un passage célébré au son des percussions et des youyou, d'imposants drapeaux des deux pays flottaient tout le long du trajet. Du faste et des fanfares encore sur la place du Méchoir au sein du palais royal. Les deux chefs d'État sont descendus de la limousine royale, entourés de la garde montée et accueillis par les dernières lumières du jour. L'ensemble de la délégation française, forte de plus de 120 personnalités du monde des affaires, de la culture ou du sport, a été ainsi accueillie par le roi et le gouvernement du Maroc, Premier ministre en tête. Dans cette délégation française, on retrouve les écrivains Leïla Slimani et Tahar Ben Jelloun, les sportifs Sofia Noumia et Teddy Riner qui ont salué les photographes avec le sourire, et puis une quarantaine de chefs d'entreprise, dont plusieurs sont inscrits au CAC 40, ainsi que 9 ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Beaucoup de monde, donc, autour du tapis rouge et de la garde royale, pour une visite qui se veut, selon l'Élysée, la marque de nouvelles ambitions pour les 30 années à venir. La visite de la réconciliation et de la coopération bilatérale retrouvée. Les deux chefs d'État, vous l'avez dit, sont en train de s'entretenir, et juste après, ils participeront à une cérémonie de signature de contrat. Demain, Emmanuel Macron s'exprimera devant le Parlement marocain, lors d'un discours d'une trentaine de minutes.
François Humfer Kataji, donc, le disait, Emmanuel Macron qui est arrivé accompagné d'une importante délégation, car le Maroc étant la première destination des investissements français en Afrique, des contrats juteux pourraient être signés lors de cette visite. Mathias Reynal.
Alstom, Airbus, Engie, des champions de l'industrie française font partie de la délégation, des entreprises qui espèrent profiter du réchauffement des relations diplomatiques et de cette période de grands investissements qui s'ouvre pour le Maroc. Le Royaume doit en effet accueillir de grands événements internationaux dans un futur proche, la Cannes 2025, la Coupe du Monde 2030. La compagnie nationale, la Royal Air Maroc, prévoit ainsi d'acheter des avions pour agrandir sa flotte et pourrait se tourner vers Airbus, qui souhaite aussi vendre des hélicoptères de transport tactique Caracal. Dans le domaine militaire, justement, la visite du président français au Maroc a également relancé les ambitions de Naval Group. Le constructeur souhaiterait conclure un accord pour la vente de 2 sous-marins et la construction d'une sous-marinade. Dans le secteur ferroviaire, Alstom est en lice avec d'autres multinationales pour décrocher le marché portant sur la fourniture de 168 trains, un contrat à 1,5 milliard d'euros. Il faut noter que le froid entre Paris et Rabat n'avait pas mis fin aux relations économiques. Loin de là, les échanges commerciaux entre la France et le Maroc ont atteint le record de 14 milliards d'euros l'an passé. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
N'Djamena, 100.2 FM.
L'armée tchadienne a subi une attaque d'envergure des djihadistes de Boko Haram hier soir. C'est une base avancée dans la région du lac au sud-ouest du pays qui a été ciblée. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués selon la présidence tchadienne. Et le président tchadien s'est rendu sur place ce matin. Ezra Zikoumana.
L'attaque djihadiste a débuté aux environs de 22h locales et a visé la base avancée de l'armée tchadienne située sur l'île de Barkaram, tout près de la frontière du Nigeria. Les plus de 200 militaires qui constituaient la garnison de cette base n'ont pas réussi à contenir les assaillants, très nombreux selon des sources locales. Le bilan est très lourd, au moins 40 soldats tués selon la présidence tchadienne, alors que des sources locales parlent d'une soixantaine de soldats qui ont perdu la vie et des dizaines de blessés. Les assaillants ont occupé la base jusqu'à l'aube et sont repartis en emportant avec eux un lot important d'armes et de munitions après avoir incendié le camp militaire selon toujours les mêmes sources. Signe de la gravité de cette attaque, le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place tôt ce matin et a tout de suite lancé l'opération baptisée Haskanit de traque des assaillants, précise le communiqué de la présidence. Elle se vient quelques semaines à peine après la fin de l'opération Lexaniti, rendre sain le lac en français de la force multinationale mixte dans la région, une opération d'envergure qui n'a pas eu apparemment l'effet escompté, puisque les djihadistes de Boko Haram ont continué d'écumer cette zone marécageuse qu'ils connaissent comme leur poche en attaquant et en pillant agriculteurs et pêcheurs de la région, selon des témoignages sur place.
Et la présidence tchadienne décrète 3 jours de deuil national à partir de demain. Drapeau en berne et activités à caractère festif interdites. Alors comment expliquer cette attaque de grande envergure, cette résurgence de Boko Haram? Écoutez la réponse de Vincent Fouché, chercheur du CNRS et spécialiste du groupe djihadiste. Il répond à Arthur Ponchelet.
Alors le mouvement est divisé en deux depuis 2016. En 2021, le leader historique du mouvement initial, Aboubakar Shekau, avait été tué et la faction qu'il dirigeait, qu'on appelle Jamaat al-Sunna al-Dawati wal-Jihad, donc JAS si on veut, a été en perte de vitesse en 2021-2022, avait subi de rudes coups face à l'autre faction qui est liée à l'État islamique. Cette faction est liée à Shekau à partir de 2023 a connu une sorte de réveil militaire, et notamment à partir de la partie nord du lac, à la frontière entre le Niger et le Tchad, sous la direction de Bakoura, qui est donc le successeur de Shekau. Et donc cette attaque, elle a eu lieu dans la zone en fait qui est sous contrôle de Bakoura. Et donc c'est probablement de ce côté-là qu'on doit voir les responsabilités de cette grosse attaque.
Et que cherche justement Boko Haram en lançant ce genre d'attaque?
L'attaque a eu lieu hier, hein. On est encore très flou, y compris sur le bilan. On parle de 40 morts, mais il y a peut-être plus que ça. On n'est pas certain que ce soit Bakoura. Il n'est pas impossible que ce soit un sous-chef dans sa faction qui a envie de se distinguer, hein. On sait qu'il y a des tensions au sein du groupe et on sait que pour se lancer un peu en indépendance, si on veut, dans le djihad, il faut des moyens et que les grosses attaques sur des bases militaires, c'est à ce moment-là qu'on récupère de l'armement et qu'on peut essayer de créer une sous-faction. Mais ça peut être aussi, pour Bakoura, une manière de montrer « voilà, on est là, je suis un leader important, il faut compter avec moi ».
Est-ce que la coopération régionale du Tchad, notamment avec ses voisins, le Nigeria et le Niger, est-ce que cette coopération, elle a montré ses limites aujourd'hui?
Oui, ça, je crois que c'est assez clair depuis un certain temps. Au fond, c'est précisément dans le lac, qui est la zone que cette force doit contrôler, que le djihadisme est le plus actif et le plus destructeur. Donc oui, on a des vraies limites.
On en parlait tout à l'heure, le président Déby s'est rendu sur place dès ce matin. Quelle signification on peut donner à ce déplacement du chef de l'État sur le front?
Le régime tchadien est un régime qui doit beaucoup à l'armée, hein, qui est vraiment lié au contrôle et à la loyauté des forces armées. Et dans un épisode tout à fait similaire, puisque c'était d'ailleurs le même groupe, hein, qui en 2020 avait lancé une grosse attaque contre l'armée tchadienne à Bohoma, qui avait fait plus d'une centaine de morts dans l'armée tchadienne, le président Déby père s'était rendu immédiatement à Bohoma et avait lancé une contre-offensive, s'était montré sur le terrain. Et donc, comme Déby, le fils, doit aussi beaucoup de légitimité à cette espèce de posture militaire, il est un peu obligé de s'occuper de son armée quand elle est en crise, quoi. Donc on est dans une forme de répétition là.
Vincent Fouché, chercheur du CNRS avec Arthur Ponchelet. Le conflit au Proche-Orient, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice son dossier de preuve du génocide, tout cela entre guillemets, commis selon elle par Israël à Gaza. Une annonce de la présidence sud-africaine est confirmée par la Cour internationale de justice. C'est un dossier de plus de 750 pages. otages. Plusieurs pays se sont joints à la procédure intentée par Pretoria contre l'État hébreu, la Bolivie, la Colombie, la Libye, l'Espagne ou encore le Mexique. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 19h40 à Yaoundé, au Cameroun. Le corps sans vie d'une élue municipale membre du parti présidentiel a été retrouvé à Bamenda, la capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, moins de 48 heures après son enlèvement. Amélie Tully.
Frida Djoko était adjointe au maire de la commune de Bamenda 2. Son corps a été retrouvé portant des traces de blessures par balles. La militante RDPC, le parti au pouvoir à Yaoundé, avait disparu samedi, en fin de journée. Elle revenait d'une projection d'un film documentaire sur le président Paul Biya. Des hommes armés l'ont enlevée à son domicile, selon des témoins. Aucun groupe armé n'a revendiqué l'enlèvement et l'assassinat de Frida Djoko. Le préfet du département de la Mézame dénonce, je cite, les dérives barbares des terroristes armés. La formule communément employée par les autorités camerounaises pour qualifier les groupes séparatistes anglophones. Le jour même de l'enlèvement de Frida Djoko, samedi, après la projection du film sur Paul Biya, deux personnes ont été tuées par balle à Bamenda. Une figure de la société civile locale, Fonso, déplore ces nouveaux actes sanglants. Rien ne justifie, dit-il, qu'on tue pour une différence d'opinion. Nous devons tous redéfinir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Et par ailleurs, toujours au Cameroun, selon le ministère de la Communication, le directeur de publication du Point Bi Hebdo, Thierry Patrick Ondoua, est libre depuis vendredi. La ministre de l'Habitat n'a pas encore retiré sa plainte pour diffamation et propagation de fausses nouvelles déposées à son encontre. Le journaliste doit comparaître à nouveau devant la police judiciaire. Jour de rentrée scolaire au Niger, initialement prévue le 2 octobre, elle avait été repoussée par les autorités en raison des graves inondations qui ont fait, selon le dernier bilan officiel, 339 morts et plus d'un million de sinistrés. Finalement, plus de 4,5 millions d'élèves ont pu reprendre le chemin de l'école aujourd'hui. Magali Lagrange.
La plupart des classes ont pu rouvrir dans les 8 régions du Niger. Seules quelques-unes sont restées fermées localement parce qu'elles n'ont pas encore pu être dégagées, comme à Maradi et Zinder, particulièrement touchées par les inondations. La rentrée avait justement été repoussée parce que des classes étaient soit inondées, soit occupées par des familles sinistrées. À ces difficultés s'ajoutent des problèmes récurrents, classes en paillote, nombre d'élèves très élevé, plus d'une centaine dans certaines classes, notamment en raison d'un nombre insuffisant d'enseignants. D'après les informations qui nous parviennent, tout s'est bien passé, résume la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Ce regroupement de syndicats a toutefois présenté deux demandes aux autorités avant la rentrée, le paiement de rappels de salaire pour certains enseignants et le recrutement des enseignants contractuels dans la fonction publique. Plus de 70 000 sont concernés, certains sont contractuels depuis plus de 10 ans. En signe de mécontentement, la dynamique avait appelé ses représentants à ne pas accompagner les autorités lors des cérémonies de rentrée. Des consultations des militants sont aussi prévues cette semaine. Nous voulons que les négociations reprennent avec le gouvernement, explique son porte-parole, Lawali Issoufou, qui attend des propositions concrètes.
Magali Lagrange. Au Mozambique, les tensions post-électorales se multiplient. Selon une organisation des droits de l'homme, 11 personnes ont été tuées lors de rassemblements. Le principal parti d'opposition, Podemos, affirme que son candidat a gagné la présidentielle. Il a déposé un recours hier auprès du Conseil constitutionnel, alors que jeudi, la commission électorale a annoncé la victoire du leader du parti au pouvoir, Daniel Chapeau, avec près de 71% des voix. Guillaume Thibault.
Obtenir un véritable jugement pour savoir qui a remporté la présidentielle. C'est l'objectif affiché par les cadres du parti Podemos qui exigent un recomptage complet des votes. Dans leur recours présenté dans un document d'une centaine de pages, ils affirment que de nombreuses irrégularités ont été constatées et ils citent également le président de la commission électorale qui a regretté publiquement lors de l'annonce officielle des résultats des disparités. Le parti qui estime, selon son propre décompte des voix, que son candidat Venancio Mondlane a remporté l'élection présidentielle avec 53,3% des voix, a également transmis près de 300 kilos de documents au Conseil constitutionnel, en plus d'un recomptage complet. Les leaders de Podemos, qui soupçonnent des bourrages d'urnes, demandent les chiffres exacts de la participation aux 3 scrutins, présidentiels, législatifs et pour les conseils provinciaux, car ils pointent le fait que dans certains bureaux, les électeurs se sont prononcés massivement pour la présidentielle, sans voter pour le Parlement. Podemos demande l'annulation des scrutins dans ses bureaux de vote.
Et dans l'actualité également, le Soudan, plusieurs défections au sein des FSR, les forces de soutien rapide, les paramilitaires du général Emeti. Après le départ la semaine dernière d'un grand chef militaire, 5 autres responsables et conseillers du chef des FSR ont annoncé samedi à Port-Soudan leur départ. Mais avant de partir, ils ont fait des révélations sur le fonctionnement des paramilitaires et sur les ambitions de leur ex-chef. Chef Ouda Ibrahim.
Les 5 anciens hauts conseillers du chef des forces de soutien rapide ont accusé leur ancien chef de vouloir accaparer le pouvoir et de chercher à contrôler les côtes soudanaises situées sur la mer Rouge avec l'aide de pays tiers qu'ils n'ont pas nommés. Selon Abdelkader Ibrahim, ex-conseiller du général Hmeti pour le Soudan de l'Est, le chef des FSR avait proposé à l'armée de réaliser certains projets dont le coût s'élevait à 30 millions de dollars. Il s'agissait de construire des aéroports, des ponts, ainsi que 6 camps d'entraînement pour former 30 000 combattants dans l'état stratégique de la mer Rouge au Soudan, mais l'armée a refusé d'accéder à ces demandes. Ces anciens conseillers ont donc expliqué que l'échec de Hmeti à concrétiser ses ambitions pour prendre le pouvoir est la raison principale de la guerre actuelle. L'ex-directeur de communication de Hmeti, Mohamed Othman Omar, a également révélé que la communication des FSR est dirigé depuis l'étranger par une société israélienne sans plus de précision.
RFI 18h45 en temps universel. Et direction le Théâtre du Châtelet à Paris pour la 68e cérémonie du Ballon d'Or. C'est un peu les Oscars du football. Qui succédera à l'Argentin Léo Messi dans la catégorie masculine? Comme chaque année, du beau monde, hein, foule le tapis rouge du Théâtre du Châtelet. Bonsoir Sofiane Amazian, vous êtes sur place pour RFI.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et les stars du Ballon rond sont en train d'arriver sur place.
Là, vous tombez bien puisque la délégation du FC Barcelone vient d'arriver avec notamment le jeune espagnol Lamine Yamal ou la lauréate l'année dernière du Ballon d'Or féminin Aitana Bonmati. On peut noter aussi la présence il y a quelques instants du Nigérian Ademola Lookman avec son magnifique nœud papillon noir. Ça, c'était pour la note artistique. Hein. Vous voyez que les costards, c'est bien, mais parlons un peu des classements puisqu'on connaît déjà les positions pour 2 joueuses du continent africain. D'abord, l'attaquante du Malawi, Tabi Chawinga, joueuse de l'Olympique Lyonnais. Elle se classe 16e de ce Ballon d'Or féminin. Chawinga, c'était la sérieuse buteuse du PSG la saison dernière. 4 places plus haut, la Zambienne Barbara Banda, elle termine 12e. L'attaquante qui affole les compteurs avec son club d'Orlando et s'était faite remarquer lors des Jeux de Paris. Et un triplé marqué en phase de poule contre l'Australie. Côté masculin, on en parlait. Le Nigérian Ademola Lookman, vice-champion d'Afrique et auteur d'un triplé. C'était en finale de Ligue Europa avec l'Atalanta Bergame, décroche une belle 14e place et on surveillera dans la soirée également l'attaquant ivoirien Karim Konaté en lice pour le trophée de meilleur jeune, le trophée Copa, et le portier sud-africain Ronwen Williams présent ce soir dans la liste du meilleur gardien de la saison.
Et puis Sofiane, déjà avant le début de cette cérémonie, la polémique, la délégation du Real Madrid a annulé sa venue au tout dernier moment.
Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de théâtre, ma chère Sylvie. Plusieurs dizaines de personnes devaient décoller. Exactement, plusieurs dizaines de personnes devaient décoller depuis Madrid pour venir fêter au Théâtre du Châtelet, vous le disiez, le sacre de l'ailier brésilien Vinicius. Oui, mais voilà, selon les dernières informations en notre possession, aucun joueur du Real ne devrait être récompensé. Résultat, les merengues sont furieux et ne seront pas du déplacement. Je vous note les absents, Vinicius Junior donc, l'anglais Jude Bellingham ou l'entraîneur du club, l'italien Carlo Ancelotti.
Merci Sofiane Amazian, bonne soirée au Théâtre du Châtelet, puis on va suivre le palmarès avec la plus grande attention. Bounty, soleil royal, superbe, autant de vaisseaux amiraux qui ont traversé les océans mais aussi les siècles. À Madagascar, en banlieue d'Antananarive, un petit atelier et sa trentaine d'artisans font revivre depuis 30 ans ces navires d'exception en fabriquant des maquettes. Un savoir-faire unique au fil des ans. Il a acquis une renommée internationale auprès d'une clientèle étrangère. Immersion au village, c'est le nom de cet atelier avec Sarah Tetto.
Armé de son racloir, Rafah Alaï rectifie la coque du Soleil d'Orient, un navire de commerce français du XVIIe siècle. Ses doigts caressent le bois encore rugueux, comme pour mieux y déceler les aspérités à gommer. Lui est accastilleur.
Mon travail, c'est d'être le plus fidèle au plan. Donc à chaque étape, pour que la maquette qu'on crée soit identique au navire conçu il y a des siècles, on fait les rectifications.
Dans la même pièce, Touvou et Rianjanari vous façonnent les balustres du château arrière d'un navire de guerre du XVIIIe siècle. Ciseaux à bois à la main, ses gestes sont d'une précision extrême. Comme la plupart de ses camarades autour de lui, lui aussi a 30 ans d'expérience.
J'aime mon métier parce que c'est de l'art et je suis fier de voir nos maquettes voyager partout dans le monde. Une fois, mon ancien patron m'a montré un documentaire sur le navire Hermione qui reprenait la mer. Derrière le conservateur du musée qui parlait, il y avait notre maquette. Le sentiment que j'ai ressenti ce jour-là était incroyable.
Le village, c'est un clan. Les employés appartiennent à une quinzaine de familles différentes. La plupart ont été formés en interne par le fondateur, un maquettiste naval français qui a depuis revendu l'entreprise. Quant aux plus jeunes artisans, ils sont souvent les enfants des anciens. Et si l'atelier a su résister aux tempêtes provoquées par les crises économiques et sociales répétées dans le pays, c'est grâce à la qualité des productions des artisans, affirme Grégory Postel, propriétaire du village depuis 2023.
On est sur ce qui se fait de mieux dans le monde, on n'a pas peur de le dire, c'est même notre marque de fabrique. Il y a d'autres concurrents qui font des très belles pièces, mais pas aussi aboutis que nous.
Dans le jargon, on appelle cela la finition musée.
Ça nécessite plus de travail. Je pense que c'est ce qui attire, par exemple, les têtes couronnées, qui cherchent vraiment le produit pur, parfait, par rapport à ce qu'ont connu leurs aïeux quand ils étaient rois de leur pays dans les années 1600-1700.
Le prince Albert de Monaco, la famille royale d'Espagne, le pape François, ces personnalités possèdent au moins une des maquettes de prestige réalisées ici. Des commandes spéciales ou proposées sur catalogue, comme ce soleil royal d'1,20 m de longueur, sur lequel les quatre artisanes de l'atelier Grément achèvent de tendre la dizaine de mètres de cordage. Il aura fallu 15 personnes et plus de 800 heures de travail pour concevoir cette pièce d'exception vendue 5 300 € hors frais d'envoi à un particulier en France. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
RFI à suivre ce soir sur votre radio préférée à 19h10, temps universel, accent d'Europe. L'opposition géorgienne dans la rue ce soir après les législatives de samedi. Le parti au pouvoir revendique la victoire. Parmi ses opposants, un gouvernement accusé de dérive autoritaire pro-russe figurent les combattants de la Légion géorgienne. C'est le plus gros contingent étranger engagé aux côtés de l'Ukraine. Robin Dussen, envoyé spécial à Tbilissi, a pu rencontrer à la veille des élections l'un de ses engagés.
Je voulais vraiment me rendre sur la ligne de front. Mais pour contribuer efficacement, il faut faire ce qu'on te demande, pas ce que tu veux faire. Pour chaque soldat qui presse la gâchette, il y a au moins 7 personnes qui opèrent à l'arrière. Quelqu'un doit s'occuper du transport, des armes, des munitions, du renseignement, de la nourriture, de la vision nocturne ou du chauffage.
À suivre également à 19h40 en universel, grand reportage du rêve au cauchemar quand les Éthiopiens tentent le tout en Arabie Saoudite. Selon Human Rights Watch, des gardes frontières saoudiens auraient tué des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de traverser légalement la frontière entre mars 2022 et juin 2023.
Après avoir été blessé, j'ai vu les soldats saoudiens. Je leur ai demandé « Pourquoi vous m'avez tiré dessus ?» Ils m'ont répondu « Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu fais ici ? S'il vous plaît, amenez-moi à un hôpital, je suis blessé. On s'en fiche. Si tu meurs, ce n'est pas notre problème. »
Un grand reportage signé Clotilde Hazard. Enfin, couleur tropicale à 22h10, temps universel. Parmi les invités, le chanteur afro R&B togolais Santrinos Raphaël. Et on écoute cet extrait pour la vie.
Ce n'est pas qu'on a rien à dire, décider de grandir. La vie nous a pas donné le choix. On veut construire un empire, pourquoi ralentir? On demande longue vie, on dit amen. Pour toi je peux faire de la magie, pour toi je peux prédire la mère de mes enfants si toi. Avec toi je veux bâtir, construire un avenir, telle est ma prière, faut dire amen.
Et musique encore dans Afrique Soir, c'est un jeune artiste congolais, il est en train de devenir une star de la musique afro-francophone. Le Congolais Diesel Gucci sera en concert pour la première fois à Paris, ce sera au Bataclan le 1er novembre et Franck Baudin nous brosse le portrait de ce nouveau prince de l'afro-pop musical.
« Diesel Gucci est l'un des rares artistes du Congo-Brazzaville à tracer sa voie dans le sillage des stars de l'afropop. On reconnaît dans ses accompagnements des sons assimilés de l'amapiano, cette house sud-africaine qui déferle dans les productions du continent. Dès l'ouverture de son dernier disque Oasis, sur le titre Mérité, on découvre une voix autotunée avec un flow posé qui s'inscrive dans cette quête de modernité. Diesel Gucci a vécu un temps à Potopoto, l'un des plus anciens arrondissements de Brazzaville qui est aussi connu pour être le plus cosmopolite. En 2013, il impulse la création du groupe Assis pour les six quartiers de la capitale d'où sont originaires tous les membres. Il passe de danseur à chanteur, c'est le début d'une nouvelle carrière pour celui qui est devenu aujourd'hui une figure incontournable de la musique urbaine congolaise.
Il voulait faire le haut chapeau du Malili. Amoni bafasa mukalouche sobina ngoto tozo lukamili. Malembe balabala mousselou bebalé mikate bonne balo moka ba voisin ami tibobe na moboka ba yanke balingi père Noël la cuenta. Parce que la rue ne fait pas de cadeau. Koyo kiba moko ba weche keza ba youpi.
Riff de guitare, clavsoukous et grosse caisse sur tous les temps. Sur ce titre Juja, Diesel Gucci n'hésite pas à revenir aux fondamentaux. Il va même jusqu'à faire du libanga, cette forme de dédicace pratiquée par de nombreux artistes congolais. Un retour aux sources d'autant plus affirmé que le morceau est construit sur un sample de François Luambo, le grand maître de la rumba congolaise. Sur son dernier EP Oasis, parmi les six chansons, trois sont le fruit de collaborations. Diesel Gucci n'hésite pas à partager l'affiche, comme sur le titre Bomba avec le chanteur kino-congolais Kisson Zuba Boy. Autre exemple de rencontre, celle de Hiro, le chanteur français d'origine congolaise, également leader du groupe Bana C4. Diesel Gucci l'invite à collaborer sur cette chanson Dosé qui nous parle du tracas des histoires d'amour.
C'est Diesel Gucci.
Je sais que j'ai déconné, je me suis laissé tenter. Faut pas gommer toutes ces années, reste à mes côtés. Pas la terre, il s'agit de doser. Le passé c'est le passé, oublions ce dossier. Tu peux te reposer. Si la fleur a fané, t'inquiète, je vais l'arroser. Bébé, t'en as assez. Lucé sans les armes. Laisse-moi t'enlacer pour raviver la flamme. Nana yodo manakala. Mote mananga. Zoua tena kemosala. Fomade sabana. On a besoin de cette mala. Pour kiffer la vie. Je t'aime trop, ça les rend malade. Et jaloux, j'en vis koyokate. J'ai déconné, je me suis laissé tenter. Pour pas gommer toutes les années, reste à mes côtés. Pas la terre, il s'agit de doser. Le passé, c'est le passé. Oublions ce dossier. Dodo, 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 dodo.
Laisse-moi m'excuser, même si j'ai blessé ton âme, faut me pardonner, je
Le titre dosé de Diesel Gucci qui sera en concert pour la première fois au Bataclan de Paris vendredi. Merci Franck Baudin. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur musique.rfi.fr. Vous y retrouverez l'interview du chanteur congolais par Marjorie Bertin. C'est ainsi que s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Un nouveau horaire, vous savez, on a changé d'heure ce week-end. Merci à Jonathan Brady à la réalisation, à Alexis Guilleux à la rédaction en chef et Guillaume Bédrane, attaché d'édition. Restez à l'écoute, l'info revient dans quelques instants sur la Radio du Monde. Bonne soirée à vous.
Il s'agit de le passé, c'est le passé. Oublions ce dossier.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Demain,
l'insuffisance rénale. Quand se faire dépister, comment la prévenir et la prendre en charge.
Mercredi.
La cataracte et le glaucome sont des maladies chroniques des yeux. Un patient sur deux pourrait être soigné s'il était pris en charge plus tôt. Comment permettre un diagnostic précoce?
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Jessie B, la lauréate du prix Découverte RFI 2023, sera en concert dans le cadre de sa tournée africaine en partenariat avec RFI et l'Institut français.
Retrouvez Jessie B les 7 et 8 novembre à N'Djamena, le 13 à Bukavu, les 15 et 17 à Goma.